Non, maintenant, je voudrais que de ces gestes pluriels, on passe aux gestes au singulier, hein, dont on a parlé déjà quand on était au désert, qu'on a parlé de la manne. Ce geste où il se mettait tout entier, ce geste qu'il a laissé en mémorial, le sacrement de l'Eucharistie, et ce geste où on le reconnaît après sa résurrection, lorsque la réalité de sa présence échappe à la perception immédiate des sens, on le reconnaît, rappelez-vous, à la fraction du pain. Et pas seulement sur la route d'Emmaüs, hein, aussi ici au bord du lac, on aura l'occasion de lire ce récit où Pierre et Jean le reconnaissent à la fraction du pain. Ils faisaient la cuisine aussi au bord du lac. On rencontrera le récit demain. Pour le moment, allons à Bethsaïde.
Alors ici, nous sommes à Bethsaïde, Bethsaïde Julias. Probablement Bethsaïde, c'était un petit patelin là, plus près du lac. Ça indique la maison de la pêche, la maison de la chasse. Et c'était dans l'orbite d'une ville hellénistique, Julias. Julias, si je me trompe, c'était la sœur de César. Enfin bref, on avait donné un nom romain. Et de fait, c'est la ville d'origine des trois premiers apôtres. Rappelez-vous le récit qu'on a lu de la première rencontre au bord du Jourdain. Pierre, André et Philippe sont originaires de Bethsaïde. Deux portent des noms grecs. Philippe, il devait aimer le cheval. André, Anerandros, l'homme. De fait, ils savent le grec. Tenez, on voit ça au chapitre 12 de Saint Jean. Il y avait là quelques Grecs à Jérusalem qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vint le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. C'est curieux, là. Vous savez que dans Saint Matthieu et dans Saint Marc, il y a deux multiplications des pains, et dans Saint Luc et dans Saint Jean, il n'y en a qu'une. Et dans Saint Jean, manifestement, c'est à Bethsaïde. Alors, le désert où nous sommes, ça n'a rien à voir avec le désert du sud, c'est un désert. La Pâque des Juifs était proche, devant les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où est-ce qu'on va acheter des pains pour que tous ces gens puissent manger ?» Il veut savoir où était le boulanger, Philippe était du coin. « Bien sûr, pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. » Philippe répondit, « 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun reçoive un petit morceau. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre. Vous voyez, Philippe, André, Simon-Pierre. Les trois mêmes interviennent ici à Bethsaïde. La multiplication des pains, remarquez d'abord qu'on en trouve dans l'Ancien Testament, là, dans le geste d'Élisée, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Un homme vint de Baal Shalisha et apporta à l'homme de Dieu du pain de prémices, 20 pains d'orge et du grain frais dans son épi. Celui-ci ordonna, offre aux gens et qu'ils mangent. Le serviteur répondit, comment servirais-je cela à 100 personnes? Il reprit, offre aux gens et qu'ils mangent, car ainsi a parlé le Seigneur, on mangera et il y en aura de reste. Il leur servit, ils mangèrent et ils en eurent de reste selon la parole de Dieu. Je crois que si on veut comprendre la signification profonde de cette multiplication des pains, il faut remonter encore plus haut, se rappeler tout ce qu'on a dit dans le désert à propos de la manne. Alors, dans Saint Matthieu et dans Saint Marc, il y a deux multiplications des pains. Dans l'histoire des pèlerinages, on a cherché et on a trouvé les deux endroits de la multiplication des pains. Les pèlerins vont surtout là-bas à Tabga, du côté de Capharnaüm. Bethsaïde, bien qu'on puisse y arriver maintenant sans problème, peu de gens y viennent. Et quand on lit les ouvrages récents sur la question, on aurait tendance à attribuer ces deux multiplications des pains à deux traditions eucharistiques qui se reflètent l'une dans la tradition judéo-chrétienne et l'autre dans la tradition pagano-chrétienne. Le geste de Jésus, là où il se mettait tout entier, royal et sacerdotal, la condition humaine, l'a ramassé, il prend du pain, il le lève et puis il le distribue. Ce geste alors s'est trouvé réfracté dans deux traditions et puis on a localisé ensuite, je ne sais pas, vous demanderez justement, c'est l'occasion de poser des questions aux gens qui s'y connaissent. Je vais prendre ça dans Saint-Marc surtout. L'Église n'a jamais aimé qu'on mélange les quatre évangiles. Elle préfère que la personnalité de Jésus est tellement riche qu'on prenne plusieurs regards pour la contempler. Saint Matthieu qui est un scribe, Saint Luc qui parle surtout aux Grecs, Saint Marc qui reflète la prédication de Pierre à Rome, et puis Saint Jean, alors peut-être le plus tardif, mais encore le plus curieusement, le plus précis en données topographiques et chronologiques. Je prends Saint Marc ici. Les disciples reviennent enthousiastes de la mission qu'ils ont fait. Et puis Jésus veille à leur repos, il leur dit « Venez vous-même à l'écart dans un lieu désert ». Et Raymond Topon en insiste beaucoup sur le désert. « Et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque vers un lieu désert à l'écart. Les voyants s'éloignaient, beaucoup comprirent, et de toutes les villes on accourut là-bas à pied, et on les devança. Et en débarquant, il vit une foule nombreuse, il en eut pitié. Ici, le mot évoque les entrailles maternelles, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Alors oui, les apôtres, ils viennent pour le week-end, ils viennent pour se reposer, et puis voilà que Jésus commence à les enseigner longuement, les foules qu'ils ont trouvées au débarquement. Alors ils commencent à en avoir assez, ils s'approchent de Jésus, lui dit, l'endroit est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie-les, qu'ils aillent dans les fermes, dans les villages d'alentour, s'acheter de quoi manger. Il leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Il lui dit, faudra-t-il que nous allions acheter des pains pour 200 deniers, c'est le même prix que dans Saint-Jean, hein, c'est curieux, afin de leur donner à manger. Il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. S'en étant informé, il dit 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous s'étendre par un groupe de convives sur l'herbe verte. Qu'est-ce que c'est que ce désert où il y a de l'herbe verte? Mais c'est après, la géographie devient théologie, c'est très curieux, on va le voir de plus en plus.
Oui, ça rappelle sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Oui, aussi, oui. Ils s'allongèrent à terre par carré de 100 et de 50. Vous voyez, une structuration du peuple. Vous vous rappelez la structuration du peuple par Moïse là, oui. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, il bénit et rompit les pains, et il les donnait à ses disciples pour les leur servir. C'est pas un détail, vous voyez, une liturgie eucharistique là-dedans. Moi, j'aime pas beaucoup quand on fait circuler comme ça le. Dans les groupes, il les donne aux disciples qui donnent aux foules. Et je crois qu'il faut respecter le détail de cette liturgie là qui remonte au temps les plus anciens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta les morceaux pleins, 12 couffins avec les restes de poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Et alors, vous avez une deuxième multiplication des pains au chapitre 8 dans Saint-Marc toujours. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'il n'avait pas de quoi manger, il appela à lui ses disciples et leur dit, j'ai pitié de cette foule. C'est lui qui prend l'initiative ici. J'ai pitié de la foule, voilà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, ils n'ont pas de quoi manger. Si je leur envoie à jeun chez eux, ils vont défaillir en route. Il y en a parmi eux qui sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, où prendre de quoi rassasier de pain ces gens ici dans un désert? Il leur demandait, combien avez-vous de pain? 7. Alors 7, vous rappelez les discussions dans les actes des apôtres et puis les 7 diacres là qui sont. Et il ordonne à la foule de s'étendre à terre. Et prenant les 7 pains, il rendit grâce, les rompit et il les donnait à ses disciples pour les servir et ils les servirent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Après les avoir bénis, il dit de les servir aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta les restes des morceaux 7 corbeilles. Où étaient environ 4000 et il les renvoya. Et aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il vint dans la région de Dalmanuta. Ça, personne ne sait où ça se trouve. Magadan, dit saint Matthieu, on ne sait pas non plus où ça se trouve. Alors, normalement, si vous vous souvenez de toute la signification du pain, de la manne, du désert, de Moïse, de la structuration du peuple dans le désert, de tout cela, Jésus, ici, au fond, apparaît comme le vrai Moïse que Moïse lui-même a prédit. Chapitre 28 du Deutéronome. Et le geste est un peu plus clair quand on a une culture biblique. Et c'est à ce moment-là que les pharisiens, comme par hasard, sortent et se mettent à discuter avec lui. Il demandait de lui un signe venant du ciel pour le mettre à l'épreuve. Gémissant en son esprit, il dit, qu'est-ce qu'a cette génération à demander un signe? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Et les laissant là, il s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive. Alors ici, quand on va voir Saint Matthieu, au chapitre 16, Jésus reproche de ne pas savoir interpréter les signes des temps. Génération mauvaise et adultère réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Et les laissant, il s'en alla. On est au sommet, autrement dit, de la manifestation. Un itinéraire, une journée bien construite, mais c'est pas facile de construire une journée autour du lac. Bon, on devrait d'abord écouter les discours sur la montagne, en parabole, comme ça, dans le silence. Et habituellement, on les fait dans les lieux saints où la foule se presse, c'est pas facile. Et puis, discours sur la montagne. Et puis ensuite, il faudrait lire Saint-Marc et puis observer les gestes. Tout est parlant, les silences, les colères, les regards, tout est parlant. Dans le Christ qui est le Verbe incarné, et puis de là passer au geste qu'il fait dans la multiplication des pains, où il se met tout entier, qu'il nous laissera comme mémorial, auquel on le reconnaît après sa résurrection, et que quand on est prêtre et quand on est chrétien, tout simplement, on ne se lasse pas de faire en la personne du Christ en assistant ou en offrant le sacrifice eucharistique, parce que c'est toute la condition humaine royale et sacerdotale qui est comme restaurée, comme c'est consolant dans cette vie de pouvoir faire un geste auquel des déjà, il ne manque rien. Papa, lui, avec lui, en lui, dans l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire. Alors, Jésus s'en va sur l'autre rive, et Saint Matthieu, il voit le signe de Jonas. Et l'autre rive, c'est les païens. Alors, il se passe ici quelque chose d'assez curieux. Il se retrouve seul dans la barque avec ses disciples, ses apôtres. Et Jésus a connu la condition humaine. Quand on a discuté avec quelqu'un, ça continue à tourner. Hein, ça continue à... Il pense peut-être avoir un peu de réconfort avec ses apôtres qu'il connaît de longue date et qui normalement auraient dû comprendre. Et puis, il se retrouve dans la barque. Ils avaient oublié de prendre des pains. Et l'insistance sur le mot pain ici. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, il leur faisait cette recommandation. Pour Jésus, il continue à penser dans la lancée de ces discussions qu'il a eues avec les pharisiens. Ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Alors, il se regarde hein, et puis il dit, ça y est, on a oublié le pique-nique. Vous voyez, les deux registres de pensée. Alors Jésus dit, pourquoi faire cette réflexion que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore, vous ne saisissez pas. Avez-vous donc l'esprit bouché, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Est-ce que vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de couffins pleins de morceaux vous avez emportés? Ils lui disent 12. Et lors des 7 pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées? Ils disent 7. Alors il leur dit, ne comprenez pas encore. Vous sentez là, Jésus n'est incompris pas seulement de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, mais de sa famille, de ses profs, de ses apôtres, hein, dans la solitude. Et son esprit, on l'a déjà remarqué, évolue toujours dans la dimension verticale de signification. L'échelle de Jacob pour lui est partout dressée. Le signifié est encore plus important que le signifiant, pas plus réel encore. Le vent et l'esprit, l'eau et l'eau vive, le vin. Et le sang, les noces et l'alliance, vous rappelez tout ça. Et ici, c'est la même chose. Les apôtres raisonnent au plan horizontal, pas du qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Enfin, l'eau, c'est H2O, ça sert à laver, ça sert à boire, mais la signification de l'eau. Et Jésus pense dans cette dimension de signification. Et le levain des pharisiens, c'est justement ces doctrines qui empêchent les spontanéités de jouer, qui bouchent l'intelligence, qui empêchent. Il parle très cruellement à d'autres endroits de ceux qui ont pris la clé de la science, ce qui empêche les autres d'entrer et qui ne sont pas entrés eux-mêmes. Terrible cette histoire-là. Alors, dans Saint-Marc, il y a ici, c'est n'est rapporté que par lui, ici même à Bethsaïde, il y a la guérison d'un aveugle. Dans l'évangile, il y a beaucoup de guérisons d'aveugles. Ce sont des guérisons d'aveugles qui ne voient pas clair, qui se mettent à voir clair. Mais c'est surtout la signification qui est importante. C'est que l'intelligence accède à la compréhension du dessein de Dieu, à la folie de Dieu qui est plus sage que la sagesse des hommes. Et demain, on a tous besoin de ce miracle. L'aveugle-né, laissons-le pour Jérusalem, là, à la piscine de Siloé. Mais sur la route de Jéricho, ils ne comprennent pas lorsqu'ils montent vers Jérusalem. Et Jésus guérit aussi un aveugle pour signifier, l'aveugle qui devient disciple, qui se met à le suivre. Ici, Jésus qui s'afflige de ce que ses apôtres ne comprennent pas, alors guérit un aveugle. Et c'est très curieux comme récit, c'est une guérison progressive. Ils arrivent à Bethsaïde, on lui amène un aveugle, et le priant de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. Après lui avoir mis de la salive sur les yeux, lui avoir imposé les mains, il lui demandait « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Et l'autre qui commençait à voir de répondre « J'aperçois les gens, c'est comme des arbres que ça marcherait. » Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut rétabli, et il voyait tout nettement de loin. Et Jésus le renvoya chez lui en lui disant « N'entre même pas dans le village. » On a tous besoin d'un miracle comme ça. Nous sommes tous bouchés. Nous avons des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre. Et là, après ça, ben justement, on a tout ce qui fera le thème de la journée de demain. C'est pour ça que je ne l'entame pas maintenant. Jésus passe la frontière qui est le Jourdain. Il entraîne ses apôtres dans le pays de Philippe. Et puis, jusqu'aux sources du Jourdain, au pied de l'Hermon, en terre païenne. Et c'est là que sur la confession de Pierre sera fondée l'Église. On parlera de tout ça demain. Il y a un grand tournant au nord du pays que nous allons faire demain. Une journée extrêmement importante. Mais vous remarquerez que dans Saint Jean, vous avez aussi, à propos de la multiplication des pains, ou plutôt dans le discours qui suit la multiplication des pains, aussi comme une confession de Pierre. Jésus dit « Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang un breuvage. » On trouve que ce langage est dur, et puis les gens s'en vont. Et Jésus, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Il y a déjà une confession de Pierre aussi là-dedans. Alors demain, on parlera de ça. Alors voilà, à la BST, on essaie de méditer devant les paysages. On a la chance de... Mais on serait frustré si on ne faisait pas la rive nord-ouest du lac où se sont concentrés tous les lieux saints. Alors les foules ne favorisent pas tellement la méditation. Il faut choisir ses heures. C'est pas toujours facile d'organiser l'itinéraire. Il y a le sanctuaire de Tabga et c'est là qu'on fait la multiplication des pains maintenant plutôt qu'à Bethsaïde, alors que Bethsaïde est facile.
Tenez, avant de quitter Bethsaïde, là, je voudrais évoquer un souvenir personnel. C'était, il y a déjà longtemps, le jour de l'élection du pape actuel, Jean-Paul II. On campait sur les cailloux là, à Bethsaïde, près, un peu plus près du lac. Et puis, on attendait avec impatience d'avoir un peu de résultat. Là. Alors, on avait un appareil avec les piles qui étaient déchargées. Il y en a un qui s'est réveillé et puis qui a dit « c'est un Polonais ». Penses-tu, un pape, c'est toujours un Italien, t'as mal compris. Ouais. C'est un Bolognais, probablement, c'est pas un Polonais. Alors, on a attendu encore une heure, et puis on a les nouvelles suivantes. Et puis, c'est ici qu'on a appris l'élection du successeur de Saint-Pierre. Vous vous rappelez qu'on a mis l'ABC sous son patronage. Là, je cite dans le papier d'invitation là, un texte où il dit que les chrétiens voudront être à l'avant-garde pour inaugurer des modes de vie en rupture avec la société de consommation et puis toute cette consommation sans joie. Vous vous rappelez quelque chose, j'ai mis le texte dans le papier d'invitation.
Il faudrait construire la journée comme ça. Les paroles de Jésus, ses discours, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ensuite, les gestes, d'après l'évangile de Saint-Marc surtout. Et puis ensuite, des gestes pluriels, aux gestes au singulier. Et vous voyez, la multiplication des pains, c'est quelque chose d'extrêmement significatif. Et puis au fur et à mesure que la manifestation se fait, la contradiction se fait. Et alors Jésus passe sur l'autre rive, le signe de Jonas, et puis demain nous l'accompagnerons jusqu'en terre païenne. Et c'est là que sur la confession de Pierre est fondée l'Église. Mais c'est pas fini cette histoire-là.
Alors maintenant, nous allons évoluer sur l'autre rive. Vous allez voir qu'on va être amené à lire le livre de Jonas.
Et très bas cette année, peut arriver jusqu'au bout d'une péninsule, d'une terrasse d'alluvion créée par cet wadi qu'on appelle wadi Samak. Samak, je crois que ça veut dire poisson, tout simplement. Alors le wadi Samak, c'est par l'autre rive. Nous sommes sur l'autre rive en deux parties. Il y a la partie là, des hauts plateaux. C'est l'histoire justement du Gérasénien dont on va parler maintenant, les cochons qui se jettent dans le lac, et puis la région là-bas de Bethsaïde, la région où Jésus emmène ses disciples pour se reposer et où a lieu la multiplication des pains. On en parlera. On va d'abord parler de l'histoire des cochons, là. Cet évangile que M. le curé s'est embêté de trouver au prône le dimanche. Qu'est-ce que je vais raconter sur cette histoire-là? Alors, le soir venu, il leur dit « Passons sur l'autre rive ». Et laissant les foules, il l'emmène comme il était dans la barque. Il y avait d'autres barques avec lui. Et le soir, ici, il y a une sorte de mécanisme. C'est pas comme ça aujourd'hui, mais souvent, l'air chaud s'élève, l'air froid des plateaux tombe, et alors se produit dans la mer une sorte de... Non pas des vagues, pas des grandes ondulations, mais un clapotis, c'est peut-être assez fort. Saint Matthieu parle d'un séismos. Il aime bien les tremblements de terre, les séismes. Un séisme, un tremblement de mer. Survient alors une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque de sorte que déjà elles se remplissaient. Et lui, il était à la poupe, dormant sur le coussin. Il le réveille et lui dit « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça. Ici, sous le mot grec, on voit le mot « gare » dont on a parlé quand on a parlé du langage des cosmogonies. Dieu qui, avant ce beau chapitre de la Genèse, là au début, où il a par sa simple parole, il met les éléments en place, il a comme besoin d'engueuler, j'allais dire, les éléments pour qu'ils se mettent en place. C'est un terme de cosmogonie. Au fond, déjà dans ce simple verbe, on a la réponse à la question « Quel est cet homme qui ?» Il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba, il se fit un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ainsi ? Pourquoi n'avez-vous pas de foi ?» Alors ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres « Qui est-il donc celui-là que même le vent et la mer lui obéissent ?» Et ce matin, on était à Migdal Tariché qui est juste de l'autre côté en face. On se posait la question « Quel est cet homme qui remet les péchés ?» Si « Quel est cet homme qui calme la tempête que même le vent et la mer lui obéissent ?» Alors ils arrivent sur l'autre rive, au pays des Gérasénias ou des Gadaréniens. Et aussitôt que Jésus est débarqué, vint à sa rencontre, sortant des tombeaux, un homme possédait un esprit impur. Il avait sa demeure dans les tombes, personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. On l'avait lié avec des entraves, avec des chaînes, il avait rompu les chaînes, brisé les entraves, et personne ne parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombeaux et dans les montagnes, poussant des cris et se tailladant avec des pierres. Il se prosterna devant Jésus et cria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Il lui dit en effet : « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il interrogeait : « Quel est ton nom ? » Il dit : « Légion, et mon nom, car nous sommes beaucoup. » Oui, Légion, c'est en filigrane, il y a certainement une critique ou une moquerie de la puissance occupante romaine, ces étrangers, la Legio Decima Fretensis, qui a pour emblème le sanglier, et du sanglier au cochon, il n'y a pas loin. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant : « Envoie-nous vers les ports que nous y entrions. » Et il le leur permit. Sortant alors, les esprits impurs entrèrent dans les ports et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer au nombre d'environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Leurs gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. Et les gens vinrent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus et ils voient le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu la légion. Et ils furent pris de peur. Les témoins leur racontèrent comment cela s'était passé pour le posséder et ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à prier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Mais comme ils montaient dans la barque, l'homme qui avait été possédé le priait pour rester en sa compagnie. Il ne le lui accorda pas, mais il lui dit : « Va chez toi auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Il s'en alla donc et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'étonnement. Proclamer ici, c'est le verbe kérusein, qui devient le kérigme dont on parle, la prédication. Et la décapole, ce sont les païens. Et manifestement, ces récits ont été rédigés alors que déjà c'était dessiné, l'histoire qui est racontée tout au long des Actes des Apôtres, pour le peuple élu qui reste indifférent, hostile, qui même empêche la prédication. Et puis la prédication paulinienne là, qui s'étend tout autour, et les païens qui viennent à l'évangile alors que le peuple élu mystérieusement se durcit contre. Et quand on a un peu de culture biblique, là, ce personnage qui dort dans la barque pendant la tempête en allant chez les païens, hein, qui c'est ça ?
C'est Jonas.
C'est Jonas, c'est trop évident.